L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, immobilière. Eh bien, on ne va pas du tout parler de ça cette semaine pour cette dernière émission de l'année. D'abord, on s'est habillé en Noël, on aura de la musique de Noël et on a surtout des invités exceptionnels. On va parler rugby ou plutôt reconversion des sportifs de haut niveau dans ce beau milieu. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici en studio Ryan Chapuis. Bonjour Ryan.
Bonjour à tous.
Vous êtes joueur de troisième ligne au Stade Français à Paris. Voilà, un peu éloigné des terrains en ce moment, on l'a compris, parce qu'il y a eu un petit accident, ça se casse malheureusement.
Exactement, ouais, je me suis fracturé le scaphoïde contre Montpellier il y a un mois et demi. Donc voilà, là je suis en pleine rééducation et je suis là avec vous ce matin du coup.
Eh ben c'est tant mieux. On est également en compagnie de Xavier Brissard. Bonjour Xavier.
Bonjour à tous.
Vous avez également joué au rugby.
Oui, mais pas comme pro.
Pas comme pro, mais en tout cas, vous en avez tiré pas mal de leçons que vous avez réunies au sein d'un ouvrage que vous venez de sortir, L'art de la guerre au rugby. Vous êtes inspiré de L'art de la guerre de Sun Tzu, qui est un vieux bouquin, on va dire ça comme ça, mais qui est réédité et qui est la bible un peu du management. Vous allez nous dire comment on mêle effectivement Sun Tzu et le rugby pour en tirer des enseignements. Au téléphone, on est en compagnie de Pascal Papé. Bonjour Pascal.
Bonjour à tous.
Directeur sportif du club sportif Bourgoin-Jallieu, associé du cabinet Atit Consulting et bien sûr ancien responsable du centre de formation du Stade Français et bien sûr ancien joueur de l'équipe de France de rugby. Longue carrière, hein, Pascal, de 2004 à 2015.
Bref, oui oui, ça c'est en équipe de France, mais après ma carrière elle a été un peu plus longue puisque j'ai commencé dans les années 2000 à Bourgoin, et j'ai fini en 2017 mon dernier match au Stade Français.
Voilà. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée.
C'est tellement dur de faire des matchs et des saisons en pro que, s'il vous plaît, il faut pas me les enlever, s'il vous plaît. Bon.
Très bien, donc voilà pour cette présentation de nos invités. Voilà, pour ce merci à tous ceux qui l'ont organisé. Et on se retrouve dans un instant justement pour découvrir ce monde du rugby. La reconversion, comment ça se passe? À tout de suite.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Chers amis, je vous propose de commencer tout de suite ce numéro avec une invitée. Alors malheureusement, ça aurait été un plateau un petit peu plus mixte, on va dire, mais parce qu'il y a aussi des joueuses de rugby. On a interviewé Valentine Lotos, c'est la joueuse de l'équipe de France à 7, nouvelle discipline qui cartonne en ce moment. C'est vrai qu'on parle beaucoup du rugby à 15, mais le jeu à 7 n'en finit plus de progresser, discipline olympique. Et on a demandé à Valentine Lotos comment elle voyait sa carrière, si elle s'intéressait déjà à sa reconversion. On va l'écouter tout de suite et on fait réagir nos invités juste après.
Alors, c'est un parcours assez particulier. Enfin, je viens de l'athlétisme, donc je suis passée par différentes structures étant au collège et au lycée, donc des sections sportives athlétisme. J'ai ensuite découvert le rugby en deuxième année de fac. Et puis le professeur m'a incité à venir essayer le rugby en club, donc je me suis inscrite dans le club. J'ai du coup signé quasiment de suite ma licence et arrêté l'athlétisme par ce coup de cœur rugbystique. Et donc en parallèle, je suivais des études en STAPS, donc j'ai validé une licence pro métier de la forme. Suite à ça, j'ai intégré le Pôle France et ensuite j'ai signé mon contrat professionnel de rugby à 7. Dès que je suis entrée sous contrat, j'ai voulu me replonger un peu dans les études et je me suis beaucoup intéressée pour la diététique. Et du coup, actuellement, je suis un BTS diététique pour ensuite corréler les deux métiers, le métier de coach sportif et le métier de diététicienne. Alors oui, en effet, on anticipe beaucoup à être soit dans nos études, soit dans des formations diverses. En tout cas, ce qui est certain, c'est que chacune d'entre nous anticipe l'avenir. On n'est pas inquiète là-dessus. On sait très bien que derrière, on a ce qu'il faut. En tout cas, on fait tout pour.
Valentine Lotteuse, donc joueuse de l'équipe de France de rugby à 7. On voit qu'elle a la tête sur les épaules, hein, Valentine, c'est-à-dire qu'elle le dit parmi ses camarades. Elle s'entraîne beaucoup, évidemment, mais elle pense aussi déjà à une reconversion, parce qu'on sait que c'est vrai que la carrière des sportifs, elle n'est pas de tout repos, et puis surtout, elle est courte. Et évidemment, je vois Ryan qui me regarde attentivement. Ryan, vous y en pensez, vous aussi, comme Valentine, déjà la reconversion, ou vous poursuivez vos études en même temps?
Ouais, c'est vrai que moi, malgré mon jeune âge, j'y pense assez souvent parce que j'ai 24 ans. Ouais, j'en aurai 24 ans une semaine. Donc malgré mon jeune âge, autour de nous, on nous dit souvent que la carrière va très très vite, qu'il faut absolument penser à la reconversion parce que c'est pas des sports très très.
On vous le dit, c'est vos familles, vos amis, votre entourage ou l'encadrement sportif également?
Beaucoup la famille à la base et. Ouais. Surtout aussi dans l'encadrement sportif, les joueurs entre nous, on en parle. C'est vrai que nous, au Stade Français, on a un directeur général qui est très très penché aussi sur ça. Il veut pas nous abandonner sur le double projet, ce qu'il appelle le double projet, du coup, avec la formation professionnelle à côté. Et c'est vrai qu'on y pense souvent, c'est important, parce que, comme vous l'avez dit, ça va très vite. Mmh. Maintenant, les carrières, surtout avec les nouveaux gabarits qu'il y a, beaucoup de blessures, ça peut être très vite écourté, donc faut faire attention et penser à ce qu'on va faire après.
Bon, très bien. Tiens, on va justement écouter quelqu'un que vous connaissez bien, Pascal Papé, vous êtes avec nous. Vous, comment ça s'est passé justement cet après, finalement, carrière professionnelle?
Déjà, je suis vraiment en phase avec ce que dit Ryan, hein. C'est vrai qu'au Stade Français, il y a une sensibilité qui est un peu plus, distinctive que peut-être dans les autres clubs. Mais encore une fois, il faut faire attention aussi à ce que ça soit pas que de la communication, à ce que il y ait aussi de vraies choses mises en place. Mm-hmm. Et aujourd'hui, malheureusement, dans les clubs, c'est pas le cas. Et même si on en parle beaucoup dans les clubs et que on sensibilise les joueurs, maintenant il faut passer à l'action. Le problème, c'est qu'aujourd'hui c'est que de la communication et il n'y a pas beaucoup, en tout cas, de mise en œuvre sur ce sujet-là. Moi, ma reconversion, elle a été, je l'ai fait tout seul, hein, parce que je suis la génération bien avant Ryan. Ce qui est sûr, c'est que comme Ryan, j'y ai pensé vraiment toute ma carrière, parce qu'encore une fois, le rugby, encore plus avant, il était moins professionnel, on gagnait moins d'argent, une carrière dans le rugby, ça te permettait pas après d'aller jouer au golf à 35 ans tous les jours, quoi. Donc, c'est un métier qui est précaire, il faut le dire, c'est-à-dire que s'il y a une blessure ou s'il y a de la non-performance, on peut perdre son contrat. Et donc, ça, quelque part, ça vous fait travailler la tête et on se dit qu'il faut vraiment préparer l'avenir le plus vite possible pour être tranquille. Et moi, je dirais plus, et j'irais même un peu plus loin, c'est-à-dire que penser reconversion, travailler sur son après-carrière et l'organiser déjà pendant sa carrière, ça donne un équilibre aussi à la partie sportive. C'est-à-dire que si le joueur, il est bien dans sa tête, il sait ce qu'il va faire après, il sait ce qu'il veut faire après, il a des projections, et ben bizarrement, sur le terrain, c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus épanoui parce qu'il n'a pas cette pression de l'avenir qu'il ne connaît pas, en fait.
Pascal Papé, c'est vrai que dans les anciens joueurs, on voit encore des têtes connues, hein. Alors notamment dans les médias, il y en a pas mal qui... Enfin, je dis pas mal, en fait, non, c'est très peu finalement sur le nombre de gens de professionnels du rugby. Il y a quelques têtes connues, hein, sur les différentes antennes des différents groupes de médias. Et puis, il y en a certains alors qui montent des boîtes, qui sont d'ailleurs plutôt performants, que ça soit dans l'immobilier, que ça soit dans le consulting. Je crois que vous-même, vous avez fondé une boîte de consulting, c'est ça, oui. Spécialisée dans la performance.
C'est ça, c'est Attitude Consulting, c'est une société qui est tournée vers la QVT, donc la qualité de vie au travail, mais aussi l'accompagnement des managers et des collaborateurs dans l'entreprise. Donc en fait, le modèle, il est simple, hein. C'est le parallèle entre le monde de l'entreprise et celui du sport,
oui.
Et notamment pour les dirigeants, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les dirigeants, c'est quoi? Eh ben, c'est des sportifs de haut niveau, ils doivent avoir la même approche, ils ont la même pression, ils ont les mêmes attentes d'objectifs, ils doivent manager, ils doivent donner une cohésion à leurs équipes. Donc, en fait, l'idée, c'est de vraiment rapprocher, en tout cas, les deux univers, et vraiment inculquer, et si vous voulez,
donner un sens aux personnes en entreprise, et ce sens-là, on le donne avec cette visibilité du sportif de haut niveau.
Et vous parlez aussi beaucoup prévention santé, notamment au sein de votre structure. C'est important pour
oui,
vous ?
Oui, parce que c'est aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, le collaborateur, il va être lui aussi plus performant s'il est bien au travail, s'il est à l'aise, si tout est fait pour qu'il soit performant. Donc, forcément, on met pas mal de choses. Les entreprises, et en plus, c'est d'actualité, l'actualité, donc les entreprises mettent beaucoup de choses en place pour leurs employés, leurs collaborateurs, leurs managers, pour qu'ils soient déjà en forme, qu'ils soient bien dans leur tête pour travailler, et puis surtout qu'ils soient bien dans leur vie. Et on le sait, c'est comme le sportif de haut niveau, je vous l'ai dit tout à l'heure, si tout est aligné, quand tu viens au travail ou à l'entraînement avec la banane, c'est pas pareil que quand tu viens en marche arrière.
Mmh. Vous, pendant votre carrière, justement, on a dit on n'a pas cité tous vos exploits, vainqueur deux fois du tournoi des destinations 2006-2007, finaliste de la Coupe du Monde, on s'en souvient, en 2011, etc. etc. C'est à quel moment on fait la bascule, à quel moment on commence à se dire, il faut accélérer peut-être, ou commencer à prendre des contacts pour une reconversion et pour commencer un projet ? On attend que la carrière soit finie, ou on commence dès qu'on commence à passer 30 ans, je sais pas, ou s'il y a un âge limite.
Malheureusement, chaque individu est différent. C'est-à-dire que il y en a qui vont avoir cette sensibilité, de se dire je vais me nourrir de toutes les relations que je peux avoir grâce au club, grâce aux partenaires, etc. Puis il y en a d'autres qui vont être moins déjà dans cette visibilité, dans cette approche, et qui finalement vont y penser trop tard. Donc c'est pour ça que c'est très individuel, et moi c'est vrai que depuis très jeune, déjà au CSVJ sur mon premier passage en tant que joueur, je m'intéressais au monde de l'entreprise, je m'intéressais aux partenaires, je m'intéressais à leurs activités, et en fait dans le temps je me suis ça m'a donné des idées, j'ai rencontré des personnes avec qui j'ai monté aussi la société, Frédéric Liver et Stéphane Morin qui sont mes associés. En fait c'est ça, c'est se servir de son sport, de son réseau, je parle du réseau du sport, pour pouvoir quelque part se projeter et choisir ce qu'on a envie de faire dans l'avenir. Alors, évidemment qu'il y a la formation scolaire et pédagogique que l'on doit donner aux jeunes qui sont dans les centres de formation, mais encore une fois, je le répète, c'est mal fait, parce que le jeune, on va le barder de diplôme jusqu'à 21 ans, ouais. Et puis à 21 ans, il va rentrer dans le monde professionnel, il va faire 10 ans professionnel, et puis à 32 ans, on va lui demander de retourner dans cette formation, ou d'aller travailler dans cette formation qu'il a appris 10 ans plus tôt, mais c'est fini, c'est plus du tout d'actualité. Donc en fait, pour moi, la reconversion, c'est quelque chose que tu dois travailler juste en sortie, justement, de ta réussite, de tes examens scolaires, et que tu dois préparer tout au long de ta saison, et que tu peux même, c'est important, déjà introniser dans ton planning, même quand tu es joueur de haut niveau.
Ryan Chapuis, vous le connaissez bien, Pascal ?
Ah oui, c'est grâce à moi s'il est là aujourd'hui.
c'est bien, toute modestie. Il vous écoute.
Juste par rapport à Ryan, avant de me rencontrer, il était nul. Et dès qu'il m'a rencontré, il est devenu bon.
C'est fait.
Une blague.
Il vous écoute évidemment attentivement. Qu'est-ce que vous lui recommandez là, justement, à part sur le point de vue rugbystique, ça effectivement les aléas, blessures et tout, on connaît, ça fait partie du sport. Justement, oui. Vous avez l'air de regretter un petit peu que l'encadrement peut-être des clubs se penche pas plus sur les reconversions. Qu'est-ce que vous lui dites de votre message ? C'est de se pencher, c'est d'aller vers les gens, c'est de faire ses contacts lui-même avec tous les gens qu'il peut rencontrer dès aujourd'hui ?
Oui, bien sûr. Après Ryan, c'est quelqu'un de particulier pour moi, parce qu'il fait partie de la première génération que j'ai eue en tant que directeur de la formation au club. Je ne suis pas inquiet pour Ryan, parce que c'est quelqu'un qui a une tête bien faite et qui est suffisamment intelligent pour savoir que le rugby ne suffira pas, ne suffira pas pour l'avenir, en fait. Et je sais que c'est quelqu'un qui est capable de mettre à profit, en tout cas, tout ce qu'il vit en tant que joueur de rugby, tout ce que l'on peut vivre, tous les éléments satellites que l'on peut avoir quand on est joueur de rugby, pour trouver quelque chose qui lui plaira dans l'après-rugby. Donc moi, le seul conseil que je peux donner à Ryan, c'est déjà l'organiser maintenant, parce qu'il a le temps. Parce que quand on est joueur de rugby, malgré tout, on a le temps, même si on n'est pas souvent à la maison, on a le temps de préparer des choses. et puis de commencer même en étant joueur de rugby, parce qu'encore une fois, je crois que ça enrichit finalement l'homme et le sportif de pouvoir organiser quelque chose à côté et voilà, et déjà de se projeter dans sa vie d'après, parce que encore une fois, il y a beaucoup de mauvais exemples, hein, des personnes qui n'arrivent pas à passer ce qu'on appelle nous la petite mort et qui n'arrivent pas à faire le deuil c'est du vrai. Sportif. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment aller provoquer cet avenir-là et se dire que le 30 juin, je quitte les crampons et le 1er juillet, je prends les clés de ma future entreprise ou je prends le costume de mon futur travail, etc. etc. quoi.
Bon, le 1er juillet, c'est en général, c'est vacances, vous n'êtes pas sympa. Bon, Ryan, réaction.
Non, c'est vrai que je rejoins Pascal sur beaucoup de points. C'est avant tout une démarche personnelle, je pense, de vouloir se former à côté de notre carrière rugbystique, parce que, voilà, comme il l'a dit, on a accompagné et on nous met à disposition des projets, des formations, mais après, c'est au bon vouloir de l'individu. Donc, voilà, je pense que, comme il a dit, chaque individu est différent. Et maintenant, à nous de vouloir se lancer dans cette vision de l'après-carrière, parce que ça va très vite et c'est très très important, comme l'a dit Pascal.
Ouais, après, Pascal Papé, on peut continuer aussi dans le rugby. Là, votre équipe joue ce soir ?
Oui, on joue ce soir. Moi, alors oui, effectivement, mon activité principale reste le rugby, puisque je suis aujourd'hui directeur sportif du CS Bourgoin-Jallieu. Mais en revanche, voilà, j'ai mes autres activités avec Atid notamment, un restaurant que j'ai aussi en collaboration avec des amis. Voilà, c'est des activités aussi qu'on suit de près et qui me font du bien parce qu'elles me sortent aussi de mon quotidien. Et je suis sans cesse en réflexion sur pas mal de choses au niveau stratégie, etc. Et donc, ça fait du bien en tout cas à l'encadrant que je suis sportif.
Oui, le restaurant Lille, hein, situé à Vernaison, c'est bien ça. Comment s'est passée la crise Covid là ? Vous avez pu résister ?
Oui, on a résisté parce que on a la chance d'avoir un staff déjà fidèle et loyal et quelqu'un qui est Arnaud Serlin qui gère notre établissement d'une main de maître. Donc forcément, on a souffert, mais on s'en sort malgré tout. Donc il faut continuer parce que c'est pas fini, mais c'est pour ça qu'encore une fois, ces valeurs que l'on a pu avoir en tant que sportif de haut niveau, on arrive à les transcender, ou en tout cas les apposer aussi sur nos métiers respectifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi les entreprises sont en tout cas très friandes d'aller chercher d'anciens sportifs et notamment de rugbyman pour intégrer leurs effectifs.
Eh ben oui, en tout cas le mot est passé, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui souhaitent avoir les conseils et l'expérience effectivement d'un capitaine d'équipe nationale et maintenant capitaine d'industrie. Ben Pascal Papé, directeur sportif du CSBJ, Atid Consulting, hein, ATID, c'est bien ça. Et puis voilà, Lille à Verdaison pour le restaurant. On vous libère, Pascal, merci. On vous laisse préparer les matchs de ce soir contre Angoulême et nous on reste avec nos invités. C'était un plaisir de vous avoir à distance sur Radio Patrimoine. On vous souhaite un bon match et à très bientôt. Merci Pascal.
À très bientôt, merci beaucoup.
Voilà messieurs, on va faire nous une petite pause musicale spéciale Noël. Vous allez reconnaître les titres et puis on se retrouve juste après pour continuer cette émission spéciale reconversion dans le monde du rugby. À tout de suite.
Christmas, there is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for
c'était l'un des boulonnais Maria Carey qui engrange 2,5 millions de dollars par an grâce à cette chanson. Avis aux amateurs.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'on revient sur le plateau de Radio Patrimoine en compagnie de Ryan Chapuis, joueur de troisième ligne au Stade Français Paris. On est en compagnie également de Xavier Brissard, ancien rugbyman au plus petit niveau, mais qui connaît très bien le rugby et qui a écrit L'art de la guerre du rugby, un numéro spécial reconversion effectivement des pros. Xavier Brissard, tiens, on vous a pas entendu beaucoup en première partie d'émission, on était en compagnie de Pascal Papé. J'ai une question sur effectivement ce petit ouvrage. C'est étonnant de mélanger comme ça Sun Tzu et le rugby. Comment est venue l'idée?
Alors non, c'est pas du tout étonnant en fait. On a tendance à mettre les choses en silo. Le joueur de rugby fait du rugby, le manager manage, mais en réalité non. La vie, on fait tous la même chose, que ce soit un jeune à l'école ou un manager ou sur un terrain. Ben, faut faire des efforts, faut avoir des buts, faut essayer de s'accomplir. Voilà. Et c'est la même chose, peu importe le domaine. On vit la même chose. On parle de reconversion de sportif, mais un cadre qui fait sa carrière et qui change de boulot, c'est une reconversion aussi. Mmh. S'il n'a pas le goût de l'effort, s'il n'a pas un petit peu de réflexion, s'il n'a pas d'ambition, de but personnel, ça va être très compliqué, peu importe le lieu où on se trouve. L'avantage du rugby, c'est ça, c'est que ça donne le sens du collectif, ça donne le goût de l'effort. Donc ça permet facilement, quand on a la capacité de remonter ses manches, d'avancer, de relever tous les obstacles. Et puis il y a ce sens du collectif, de l'abnégation. Ça, c'est des choses qui fait qu'on travaille pas pour soi, on travaille pour un collectif. Mmh. Ça aide aussi beaucoup à s'intégrer. Maintenant, toujours dans cette histoire de silo, on oublie en fait un rugbyman, c'est un travailleur manuel. Et puis c'est un travailleur intellectuel. C'est un sport qui demande beaucoup d'intelligence, beaucoup de réflexion, qui demande de l'anticipation au-delà de l'aspect sportif physique. Et puis aussi le rugby, c'est un outil de construction individuelle et sociale. C'est pas un sport au départ. On se sert du sport pour former. Voilà. Et donc quand on commence à voir les choses sous cet angle, il y a pas de raison de pas parler de management ou de pas. Enfin, on parle de vie simplement.
Oui, bon, écoutez, en tout cas, belle explication. L'idée, c'était que vous nous expliquiez, vous, à quel moment vous avez fait le lien, vous avez eu envie de mélanger, effectivement, les enseignements de Sun Tzu qui datent, qui sont enfin très anciens, je ne me souviens plus exactement du moment.
Avant Jésus-Christ.
12e siècle avant Jésus-Christ. Et puis le rugby, voilà, l'art de la guerre du rugby. Parce que c'est aussi un sport de combat.
C'est un sport de combat et d'évitement. Alors, on a trop tendance, ceux qui connaissent pas le rugby, à dire que c'est un sport violent, mais non, c'est un sport de combat et d'évitement. On va au combat quand on peut pas aller dans l'évitement et on crée le combat pour créer l'évitement. Donc il y a des vraies zones d'affrontement, mais il y a des vraies zones de non-affrontement qui permettent d'avancer plus vite, d'aller plus loin. C'est vraiment une façon de penser. Ce qui est intéressant sur un terrain de rugby, c'est que si on agissait dans la vie comme sur un terrain de rugby, ça serait assez facile. Sur un terrain de rugby, l'herbe elle fait 3-4 centimètres. On peut pas se cacher sur un terrain de rugby. On peut pas mentir. Voilà, soit on est à côté à soutenir son copain, soit on n'est pas là, mais on peut pas se cacher quoi. Et donc ça oblige une vérité, ça oblige une sincérité. Voilà. Et puis le rugby, c'est aussi, on le présente rarement comme ça, mais la passe en arrière, en fait, c'est ce qui crée la confiance.
Alors expliquez-nous cette passe en arrière. C'est vrai que c'est la base. Hein, je parle aux grands néophytes qui nous écoutent. C'est vrai que on ne peut passer la balle qu'en arrière au rugby. Sinon, il faut en avant.
C'est ce qu'on retient du rugby. C'est comme ça qu'on en parle. Mais en réalité, pour faire une passe en arrière, faut avancer. C'est-à-dire qu'il faut être moteur. C'est-à-dire qu'il faut être acteur. On va pas aider quelqu'un qui fait rien. On va aider quelqu'un qui fait quelque chose. Voilà. Et ben au rugby, pour pouvoir commencer à jouer, faut avancer. Donc on est déjà on est dans l'action. Du coup, c'est facile d'aller donner un coup de main à quelqu'un qui est dans l'action. Et encore une fois, on peut pas se cacher. Donc voilà, faut que chacun fasse son rôle. Voilà, c'est un peu ça la vie en fait. C'est ça que devrait être la vie. Mmh.
Bon, Ryan Chapuis, ça vous parle ce que dit Xavier Brissard? Vous, quand vous avez commencé le rugby, c'est vrai que c'est très formateur. On rencontre, évidemment, il y a des notions de collectif, il y a des notions de combat ensemble aussi.
C'est vrai qu'il y a d'ailleurs très très bonne définition de notre sport et de toutes ses valeurs. C'est vrai que quand on atterrit dans ce sport, on se dit dans un premier temps que ça va être un sport un peu de bourrin, de combat. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui gravitent autour et c'est vrai que on a beaucoup de valeurs qui sont retransmises. On a le sens du collectif qui est très important. Voilà, il l'a dit, on n'est pas tout seul sur le terrain. On fait confiance à un copain, on fait confiance à 14 copains. Donc,
Et Xavier disait aussi, on peut pas se cacher. C'est vrai que bon là, celui qui tire un peu la patte, bon très stigmatisé, hein, certains joueurs, ça se voit plus au foot, hein, notamment certains qui courent pas. Au rugby, c'est compliqué, quoi. On a l'impression que voilà, si on n'est pas ensemble, si tout le monde n'y met pas du sien, rapidement on perd en performance en fait.
Exactement, on peut pas se cacher, on le voit directement. C'est vrai que bah à contrario au foot, on peut voir certains qui ne font pas les efforts. Si au rugby tu fais la même chose, je pense que ça se voit directement et tu peux te faire tirer les oreilles. Mmh.
Alors, vous, dans ce petit livre, L'art de la guerre du rugby, Xavier Brissard, vous reprenez du coup les grands principes de Sun Tzu, le temps et l'espace, on a le rapport de force, on a pas mal de choses qui sont expliquées, et donc vous le transférez au monde du rugby, mais pas que, hein, c'est aussi pour expliquer, notamment sur la formation, comment ça se passe, comment on peut soumettre l'ennemi sans combattre, etc. Voilà, dépenser le moins d'énergie possible pour un meilleur résultat, ça peut servir à tout un chacun, du coup, au manager. Comme à celui voilà, qui se pose un peu des questions sur sa carrière.
Bien sûr, la vie c'est pas un sprint, c'est un marathon, donc il y a des moments où faut relancer un petit peu l'effort, il y a des moments où il faut être capable de... Il y a les temps forts, les temps faibles, il faut gérer ça correctement. Et donc si on agit sans réfléchir et sans avoir un minimum de vision de l'effort, c'est compliqué parce que il y a des expressions dans le rugby, il y a plus d'essence dans le moteur, les joueurs peuvent être à capot ouvert, les matchs généralement basculent à la 60e minute, c'est qu'il y a une équipe qui a plus fait travailler l'autre équipe et l'équipe qui a beaucoup plus donné d'efforts, elle commence à traîner la patte à ce moment-là. Donc voilà, la gestion de l'effort, c'est important. Et la gestion de l'effort, c'est pas ne pas être à plus de 100%, c'est pas travailler intelligemment. Voilà. Si on se place au bon endroit, au bon moment, on n'est pas en retard. Donc on a moins besoin d'accélérer. C'est des petits détails, en fait, qui font qu'on est à dépenser moins d'énergie. Et donc moins d'énergie, plus de capacité à rester lucide, plus de capacité à aller au bout du match.
Mmh. C'est vrai que j'imagine quand on est joueur, on a envie de tout jouer, tous les matchs, jusqu'au bout. Pourtant, quand on voit effectivement la teneur aujourd'hui, la densité physique qu'il y a sur le haut niveau, le top 14 en particulier, on se dit 80 minutes, c'est extrêmement long. Et en plus, c'est des efforts répétés que vous faites quoi, chaque semaine, chaque deux semaines. Comment on tient la cadence, Ryan Chapuis?
C'est vrai que c'est des efforts très très intenses. On joue sur 80 minutes, comme l'a dit notre collègue à côté. Il y a des temps forts, il y a des temps faibles. Il faut savoir les gérer. Voilà.
Mais on vous apprend cette gestion justement de l'effort, de récupérer. Je sais pas, parce que on voit ça. En plus, c'est de plus en plus rapide. Je parle pour mon cas, mais on s'amuse quand même beaucoup plus maintenant en regardant un match de rugby qu'un match de foot. Des fois, il se passe rien pendant demi-temps.
Ouais, c'est vrai.
En rugby, il y a pas en fait.
Au rugby, il y a très peu de temps faibles. Enfin, ça dépend les types de matchs, mais c'est vrai qu'en général, c'est assez impressionnant. Voilà, il y a beaucoup de courses, il y a beaucoup d'intensité, de points de collision, et c'est vrai que voilà, il faut savoir les gérer parce que au quotidien, les corps sont fatigués. Bon, heureusement, on est beaucoup dans les effectifs, il y a beaucoup de joueurs, donc il peut y avoir une rotation assez importante selon les blocs de match, mais
la préparation aussi a changé. Les entraînements sont plus durs, j'imagine, pour être prêt le jour J.
Sont très intenses, voilà. On
dit que des fois les entraînements sont même plus durs que le match, c'est vrai.
Il y a un dicton qui dit entraînement difficile, match facile. Ouais. Donc les entraînements des fois sont plus durs que les matchs. Après voilà, sur les matchs, toutes les phases de plaquage, de mêlée, etc. qui demandent beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que sur les semaines d'entraînement, on a un mot qui est apparu aussi, mais maintenant c'est entraînement à haute intensité, ils appellent ça.
Oui.
Donc il y a un jour par semaine.
Parce qu'avant c'était à faible intensité, quoi. C'était un petit jogging léger.
Faut demander à notre ami Sylvain qui est derrière, mais non, je pense que il y a toujours eu beaucoup d'intensité sur les entraînements, mais c'est vrai que maintenant sur une semaine, sur un jour, ils ciblent vraiment un jour en particulier où on va monter à très haute intensité, ils appellent ça. Donc
d'accord.
Beaucoup de courses, beaucoup de kilomètres parcourus, beaucoup de.
Cette haute intensité, elle se retrouve parfois dans certains moments de match précis où on voit effectivement, on voit la balle qui va d'un terrain, enfin d'un bout à l'autre du terrain, c'est ça. Et puis tout le monde suit. On s'imagine que bah voilà, il y a les trois quarts les ailés, c'est-à-dire je traduis hein, les joueurs les plus légers. Pour les plus lourds, ça peut être plus compliqué.
Ouais, c'est vrai que voilà, il y a différents gabarits sur un terrain de rugby et pour certains, ça peut être plus compliqué que d'autres sur certains efforts. Mais voilà, c'est un sport comme on a dit où faut se faire confiance. On travaille les uns pour les autres, donc. On s'accroche, comme on dit, c'est dans la tête, donc voilà, on travaille tous pour un même but, c'est d'aller chercher la victoire malgré que ça soit très dur à certains moments.
Ouais, très très dur. Xavier Brissard, c'est vrai que ça c'est intéressant d'avoir aussi ce jeu finalement qui mêle l'ensemble des gabarits. Tout le monde peut jouer, hein, c'est pas excluant le rugby.
Ah. Surtout si on va parler plutôt du rugby amateur. À l'école, les enfants sont plutôt très durs entre eux. Et le petit gros, on va se foutre un petit peu de lui, on va le maltraiter et tout. Et puis en fait, sur un terrain de rugby, ça va peut-être être la star de l'équipe. Donc il y a une vraie intégration de tous les gabarits, de tous les types. Moi, j'ai entraîné dans un club où il y avait 28 nationalités différentes dans le club.
Ah bon ?
Ouais. Et c'est ce qui est formidable sur un terrain de rugby, c'est qu'il n'y a pas de blond, il n'y a pas de black, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de. Voilà, il y a des copains qui jouent avec nous, quoi. Il y a des copains qui sont là pour nous aider quand on est en difficulté. C'est un vrai outil. Je disais un outil de construction individuelle et sociale, mais voilà, sur un terrain de rugby, il y a nos collègues, quoi, il y a nos copains. Voilà. Et c'est encore plus vrai dans le rugby amateur que dans le rugby professionnel, parce que ils ont pas d'obligation, les amateurs. Donc voilà, ouais, ça intègre beaucoup.
Bon, justement, dans un instant, on va continuer sur ce thème. On va parler effectivement performance et puisque ça apporte aussi sur le long terme. On se retrouve avec nos invités dans un instant pour la suite et la fin de l'Hebdo Patrimoine.
La nuit n'en finit plus et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre malgré le vide de tout ce temps passé. Et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser. Qui vient, mais tout s'efface.
Et on vient d'écouter Petula Clark, La nuit n'en finit plus. Choix de Ryan. Pourquoi ce choix, Ryan?
Ouais, c'est une petite musique qu'on écoutait entre copains en troisième mi-temps, notamment avec Johan Maestri, Gaël Ficou.
Sympa.
C'est sympa.
Les jours de victoire, les jours de défaite, ou les deux?
Ouais, les deux.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Un numéro spécial rugby, reconversion des sportifs professionnels et littérature également, avec notre ami Xavier Brissard et son livre « L'art de la guerre du rugby ». Pardon. Ryan Chappuis est également avec nous, il est joueur au Stade français à Paris. Et justement, messieurs, on continue. Qu'est-ce que ça apporte sur le long terme, Xavier Brissard, pour vous justement d'être joueur ou d'être amateur, mais plus joueur, comme vous l'avez dit, parce que c'est une construction, vous l'avez dit, sociale également?
En premier lieu, peut-être le goût de l'effort. Le goût de l'effort, parce que être rugbyman, c'est dur. Mettre un gamin au mois de février sur un terrain de rugby en short, aller prendre des coups, faut quand même une certaine motivation. Donc, ouais, le goût de l'effort, c'est ce qui permet de tout essayer d'accomplir. Donc, ça, c'est un début. Le sens du collectif, effectivement, c'est très important de penser qu'on fait pas les choses que pour soi. Et puis, qu'est-ce que ça apporte le fait d'avoir la tête haute, quand on a un petit peu conscience de ce qu'on est capable de faire.
Alors je précise ma question parce qu'on a déjà fait des émissions effectivement sur le sport. C'est le sportif, on a l'impression en particulier, les sportifs de haut niveau, on retrouve certaines caractéristiques, mais le rugby en particulier, à votre avis, c'est l'ensemble de ces valeurs?
Ouais, essentiellement l'abnégation et le goût de l'effort.
Bon, on va demander à notre témoin du jour, Ryan Chappuis. Lui, il est en plein dedans, joueur un peu écarté des terrains, on l'a dit, à cause d'une blessure, mais bientôt de nouveau sur le pré. Ryan, vous, qu'est-ce qui vous a, quand vous étiez gamin, qu'est-ce qui vous a appelé? Parce que, bon, vous avez un sacré gabarit, vous auriez pu faire d'autres sports, vous avez peut-être essayé. On a écouté Valentine tout à l'heure qui nous disait, elle était athlète, elle faisait de l'athlète, elle tombe dans le rugby, du jour au lendemain, là, ça y est, elle était tombée dedans. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous?
C'est vrai que moi, à la base, c'est une passion qui m'a été transmise par mon père. Il était sapeur-pompier à Paris, il a joué un peu avec les pompiers de Paris au rugby. Et quand j'étais plus jeune, ils m'ont emmené au stade, du coup, notamment au stade Jean-Bouin, pour aller voir le stade français. Et de temps en temps, quand il y avait les gros matchs au stade de France, les gros affiches du stade français se passaient au stade de France. Donc voilà, c'est lui qui m'a introduit dans ce sport. Après, à la base, il voulait pas trop que j'en fasse, il avait peur.
Ouais, parce qu'il y a une différence entre aller voir les matchs et puis après se mettre en situation.
C'est vrai, ouais. Il avait peur que je sois vite lassé, donc j'ai touché à pas mal de sports dans un premier temps. Je fais de la natation, de l'athlétisme aussi, comme notre ami qui a été interviewé en début d'émission. Et après, ouais, je suis arrivé à l'âge de 10 ans. Donc après la Coupe du Monde 2007 en France. Et à partir de là, j'ai pu lâcher. Voilà, c'est quelque chose. Je voulais aller tous les jours à l'entraînement.
Ah ouais, comme quoi l'effet Coupe du Monde a un sacré impact.
Ouais,
c'est bien, on va en avoir une très bientôt.
C'est important.
Ouais, c'est important. Et ensuite, comment on gravit les échelons, comment on s'aperçoit qu'on est doué, qu'on a du talent, on vous le dit, c'est une passion qui vous quitte plus?
Ouais, c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup pour le plaisir, le fait de faire du sport. Voilà, on rencontre beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, sont encore mes amis, des éducateurs, des dirigeants qui ont été importants pour moi dans mon développement personnel en tant qu'homme. Et après, petit à petit, voilà, bah, tu vois que tu t'en sors pas trop mal. C'est vrai qu'il y a un âge charnière vers 14-15 ans où là, il commence à y avoir des recruteurs qui tournent un peu autour des terrains. Ouais. Et là, c'est là que...
Mais il y a un écrémage aussi, c'est-à-dire que bah voilà, peut-être la star du club, finalement, elle se lasse aussi, on n'est plus aussi performant, on a aussi d'autres tentations en étant ado et d'autres centres d'intérêt. Vous avez quand même continué et persévéré dans cette voie?
J'ai quand même continué parce que voilà, c'était un rêve de gosse, on va dire, mais c'est vrai que moi, mes parents ne m'ont pas lâché, voilà, il y a toujours eu le double projet. Ils m'ont dit, tu veux faire du rugby, mais il va falloir... cartonner à l'école, il va falloir avoir tes diplômes parce que voilà, c'est
important.
Passe
le bac d'abord.
Exactement, passe ton brevet, passe le bac et ta licence à l'université. Donc voilà, j'ai eu les trois, heureusement, et j'ai pu faire du rugby mon métier. Donc,
ça veut dire que si demain tout s'arrête, bon, on va pas vous le souhaiter bien évidemment, vous pouvez réembrayer sur autre chose ou...
Écoutez, ouais, j'ai validé une licence en STAPS, entraînement sportif, il y a un an et demi maintenant. Donc oui, voilà, j'ai un diplôme. Je sais pas si je vais pouvoir rebondir quelque part avec ça, mais oui, je pense. je pense que je peux faire quelque chose.
Non, bah d'abord une belle carrière, le plus haut possible en top 14, évidemment, et peut-être plus haut. Xavier Brassens, c'est vrai que c'est intéressant de voir comme ça ce témoignage de gens qui tombent dedans et puis après qui deviennent pros. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, hein, bien évidemment.
Oui, comme partout en réalité. Si on commence à avoir envie de faire des choses importantes, il y a toujours que très peu d'élus, donc faut se donner beaucoup de mal, beaucoup de travail, beaucoup de vision pour pouvoir atteindre son but. Maintenant, on a une petite tendance à penser que c'est le bout de la vie d'être joueur pro. Non, c'est un passage seulement. Et puis tous les gamins qui arriveront pas à ce niveau-là, si on parlait de ça commence sérieusement le haut niveau à 14 ans. Si on fait 14, 15, 16 ans à haut niveau et qu'après on décroche ou qu'on n'a plus le niveau, on va quand même jouer dans des niveaux où peu de gens jouent en France. Mmh. Parce que en dessous du niveau professionnel, il y a quand même des catégories où c'est d'un sacré bon niveau et on peut être fier de ça, quoi. Et puis on a vécu des expériences. Je me souviens de gamins que j'ai entraînés qui jouent des finales de Super Challenge contre Toulouse ou contre l'ASM ou peu importe, enfin contre des grands clubs. C'est des choses que peu de joueurs ont vécues. Donc il faut rappeler que on n'atteint pas toujours nos buts, mais que on peut quand même être fier et que ce qu'on a fait c'est ce qui nous construit, quoi. Ryan, il rebondira parce que ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, c'est énorme, et donc tous les chantiers qu'il aura à faire demain seront plus faciles, donc il les fera sans problème. Ouais. Et c'est cette vision qu'il faut avoir.
C'est vrai que quand on voit des champions, ou même vous, hein, vous êtes dans les élus top 14 et tout, c'est quand même des aventures incroyables là, de partir comme ça chaque semaine, d'être même, on passe à la télé.
Non, ouais, c'est vrai qu'à la base,
vous avez eu plein de sollicitations.
Il y a eu beaucoup de sacrifices à la base, hein, comme l'a dit Xavier. Il y a beaucoup de forts potentiels qui ne seront pas les élus qui joueront en top 14 ou à haut niveau. Voilà, moi, j'ai plein de copains qui étaient très très performants et qui n'ont pas réussi. Et ouais, voilà, après, c'est une vie à part. On est tous les week-ends en déplacement, on passe à la télé, il y a des médias qui parlent de nous, et voilà, après, faut...
On voit son nom dans l'équipe.
ça arrive. Et voilà, après, faut savoir faire abstraction. Enfin, ça fait partie du métier, faut savoir faire abstraction de tout ça de temps en temps, et le plus important, c'est être performant sur le terrain.
Ouais. On gère la pression. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être un sport moins médiatisé, mais ça commence. Et puis, il y a toute l'influence maintenant aujourd'hui des réseaux sociaux aussi. Ça vous touche, vous, si vous voyez des critiques, ou comment vous le prenez, ou on arrive à s'en extraire et à dire, bon, moi, je me concentre sur ce que je sais faire.
Ouais, c'est vrai qu'à la base, c'est très impressionnant. Tout ce qui gravite autour du monde professionnel au niveau du sport, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être dures envers nous, les joueurs. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut savoir faire abstraction. Faut savoir aussi accepter les critiques et pouvoir se remettre en question et être plus performant après. Donc, ça fait partie du métier. Voilà, c'est quelque chose qu'on
bon, apprend. Quand c'est qu'on vous revoit sur les terrains, du coup, c'est la fin de la.
Normalement, pour moi, la 2021, c'est fini, mais courant janvier, j'espère.
Eh ben, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir à l'antenne. Merci à Ryan Chapuis. On suivra vos exploits, joueur 3e ligne au Stade Français à Paris. Merci Xavier Brissard. On recommande votre ouvrage, L'art de la guerre. Du rugby, voilà, aux éditions Les Trois Colonnes. On remercie également Pascal Papé qui est venu par téléphone, Valentine Lotteuse, pour son interview sur ses idées de reconversion, même si elle est au début de sa jeune carrière. En tout cas, un grand merci à ceux qui nous ont aidés à préparer cette émission. Bien sûr, Sophie Bernard, directeur associé de Radio Patrimoine, Sébastien Barraud. On remercie également le Rugby Club à Paris. Merci à la technique pour cette dernière. Jason Pignero, Baptiste Plouchard et toute l'équipe. On vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour un nouveau numéro de l'Hebdo Patrimoine. Très bonne fête de fin d'année à tous.
L'Hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.